Si vous n'aimez pas l'histoire, on tâchera de vous la faire aimer. Si vous l'aimez, on tâchera de ne pas vous dérouter. Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Lay, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante. Même si la manière de les présenter est parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques. Micro-histoire sur RVR, présentée aujourd'hui par Jean-Noël Cimetière.
La cité d'Echelette. En 1873, Eugène d'Echelette installe son usine à l'emplacement d'une ancienne filature. Pour des commodités, il détourne le cours de la rivière le Rhin, et c'est pourquoi actuellement, bien que les bâtiments de l'usine soient installés sur la rive du Rhin, une partie des bâtiments paye les impôts locaux à Amplepuis, car la limite des communes a conservé l'ancien tracé de la rivière. Pour avoir son personnel plus près de ses ateliers et surtout loger les ouvriers qui viennent des régions avoisinantes, il crée de vastes cités et au fil des années se développe un environnement particulier. Par ses locations, le personnel est maintenu près de l'usine, plus disponible et surtout enraciné à l'usine, avec un logement décent pour l'époque, à loyer réduit. Regrouper une certaine population nécessite également de lui donner des lieux satisfaisant ses désirs. Le culte, tout d'abord, car la famille d'Echelette est très croyante et très pratiquante, et il en est de même pour la plus grande partie de la population de la région. Une chapelle est construite en 1884, et les prêtres de la paroisse d'Amplepuis desservent la chapelle tous les dimanches et jours de fête par une messe à 8 heures. Il y a également, chaque veillée de Noël, une messe de minuit. Les dispositions testamentaires d'Eugène d'Echelette, à savoir
« Je prie ceux de mes fils qui s'appliqueront à l'industrie de ne jamais oublier que le patron a une mission à remplir envers ses ouvriers. Il faut tout faire pour leur bien moral. »
Donc ces dispositions testamentaires montrent bien dans quel but et à quelle ligne de conduite se rapporte la construction d'une école ouverte jusqu'à ces dernières années pour les enfants dont un parent travaille à l'usine d'Echelette. Le personnel est rémunéré par l'usine et la gratuité de la scolarité offerte aux parents. L'école est tenue jusqu'en 1951 par des religieuses Saint-Charles. Les garçons alors restent jusqu'à 7 ans et les filles jusqu'à 13 ans. Les examens sont passés en même temps que les écoles libres d'Amplepuis et il règne un climat très particulier dans cette école qui a marqué certains retraités. Par exemple, pour Noël, chaque élève reçoit immuablement 12 papillotes et des oranges. Pour les prix, des livres à tranches dorées sont l'objet de nombreux et respectueux remerciements aux chers bienfaiteurs avec fête accompagnée de scénettes et chants. La maison du maître, dans un cadre de verdure aérée, est occupée les premières années par la famille d'Echelette, puis par les directeurs successifs de l'usine. La famille d'Echelette s'installe au bourg d'Amplepuis, au château Carrier, actuellement centre social, puis au château Berchou, actuellement caserne de gendarmerie. À signaler que M. Antoine d'Echelette, qui dirigea l'usine de nombreuses années, arrivait régulièrement par le train de Rouen, où il résidait, et le concierge allait l'attendre à la gare d'Amplepuis en fiacre. Notons au passage que M. Antoine d'Echelette a laissé le souvenir d'un homme simple, très économe, ramassant les bouts de ficelle dans l'usine. Les coopératives, gérées par l'usine, tient à la disposition des habitants les produits nécessaires à l'alimentation. Chaque jour, le boulanger, le laitier, alors un paysan du coin, le boucher, apportent ou proposent leurs victuailles, tandis que le samedi, le pâtissier vient vendre ses brioches. L'usine, qui a compris jusqu'à 670 métiers à tisser, a sa hiérarchie. Il y a les ourdisseurs, les tisseurs, ceux de l'entretien, les porteurs de caisses de canettes, les monteurs de chaînes, qui sont des gareurs en puissance. les contremaîtres et enfin le directeur. En 1930, il y avait 470 métiers, parmi lesquels au moins 200 jacquards et un personnel de 400 personnes. En 1949, avec 300 personnes, les tisseurs font fonctionner chacun 4, 6 ou 10 métiers et la production journalière est de 5000 m² par jour pour 9h30 de travail. En 1978, avec les nouvelles installations et 105 personnes, cette même production atteint 22 000 m². Au départ, la vocation de l'usine était la cotonnade classique, puis fantaisie, avec aussi un peu de laine et de soie. Maintenant, la production concerne les tissus pour chemises d'hommes, les chemisiers et les robes de femmes. La marque de notoriété de la maison des Chelettes, Zephyr Bob, est une synthèse du Zephyr à carreaux et du Shérif. Il est surtout à la mode de 1930 à 1960, mais on le fabrique toujours. Tout d'abord entraîné par la force hydraulique, c'est un moteur de 140 chevaux qui apporte la force motrice à ses nombreux métiers. Il faut 3 camions de charbon par semaine, seulement pour le chauffage. Longtemps même, l'usine a produit son gaz ainsi que son électricité grâce à une turbine alimentée par le bief. La superficie des bâtiments de l'usine est de 7000 m². Un château d'eau est construit dès le départ pour alimenter l'usine, puis les logements du personnel. 95 logements ouvriers sont répartis dans plusieurs cités. On note la présence de plusieurs sortes de cités marquant chacune une période bien précise de l'évolution de la construction de logements sociaux et surtout, elles sont l'expression des données sociopolitiques pour chaque époque. Il y a eu les cités ouvrières type 1880, les logements sociaux individuels type Castor, les cités ouvrières type 1930, et enfin, le logement individuel type plan courant 1949-1950. Les logements sont construits alors tout d'abord aux alentours de l'usine, puis le long de la route à grande circulation d'un plepuy à Roanne par Rigny. Et là sont également installés les bâtiments de la nouvelle usine, qui reste la seule partie entièrement modernisée en activité complète pour un certain temps encore.
Micro-histoire sur RVR, présenté aujourd'hui par Jean-Noël Cimetière.